massivement été planté, informe la Ville de Québec. Cet engagement ambitieux, propre au projet, prévoit le remplacement de chaque arbre dont l'abattage est inévitable par 20 arbres plantés. Les prochaines plantations pourront progressivement reprendre une fois terminés les chantiers du projet Tramcité. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'émission Première Langue sur les ondes de CKIA 88.3 FM, une émission consacrée à la valorisation des langues autochtones au Québec, au Canada et à travers le monde. Je suis Cécilia Alexandre et j'animerai cette émission avec Véronique Odette. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous Karine Miller, qui est Wendat, de la Nation Wendat, et aussi professeure à la Faculté de droit, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Kwe kwe, Karine?
Kwe.
Je peux d'ailleurs te laisser te présenter dans la langue de ton choix.
Kwe, Cécilia, vraiment, ça me fait plaisir d'être là, Tiawink. Merci de me recevoir. Je suis bien heureuse de pouvoir parler de ce sujet à la fois des langues, le lien avec l'identité, le lien dans la façon dont on peut peut-être participer aussi de différentes façons à la promotion des langues. Parce qu'on pourra peut-être en rediscuter aussi, mais je connais quelques mots de la langue Wendat, mais je ne parle pas le Wendat. Je n'ai pas grandi dans cette culture de la langue Wendat, même si c'est très important. Mais oui, donc je pense qu'il y a quand même plusieurs autres façons de pouvoir contribuer aussi, puis pouvoir soutenir les langues en revitalisation, puis l'ensemble des langues autochtones aussi.
Eh bien, c'est super. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, bien entendu, on va parler de la langue Wendat. Alors justement, Karine, toi, ce lien que tu entretiens avec la langue Wendat, quel est-il? C'est une langue, on a vu à plusieurs reprises dans l'émission, qui est en cours en ce moment de revitalisation, qui a subi, on essaye de plus en plus à l'enseigner. À un moment donné, elle s'était considérée comme une langue morte, puis aujourd'hui, elle est en cours de revitalisation. Par rapport à la langue, par rapport au territoire, le Niowensio, quel est ce lien-là que tu entretiens?
Bien, pour moi, c'est important de dire qu'en fait, je n'ai pas grandi dans la culture. Et je ne suis pas la seule, mais je pense que c'est important de le dire. Je n'ai pas grandi en connaissant la langue Wendat. Je n'ai pas grandi dans la culture, la communauté. J'y suis arrivée ensuite. Quand ma mère aussi a retrouvé des droits au statut de Première Nation en vertu de la loi sur les Indiens. Mais c'était quelque chose, donc, quand j'étais petite, qui était perçu comme étant quelque chose qu'on avait perdu, qui était quelque chose qui était effacé. Comme si ça avait déjà été présent dans notre famille, mais ça ne l'était plus. Et c'est quelque chose qu'on a pu retrouver plus tard. Mais évidemment, plus tard, on ne retrouve pas tout. Lorsqu'on n'a pas appris la langue quand on est petit... Enfin, j'ai fait un cours de langue Wendat, Marcel Godbout, professeur extraordinaire. Et puis on apprend sur la langue, mais en même temps, on apprend sur la culture, sur l'histoire, sur le lien entre la description des mots, de la culture, du territoire. Puis on réalise à quel point, en fait, il y a eu un grand effacement qui s'est fait dans l'histoire, une coupure. Puis c'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. L'objectif du génocide. Et puis, ces droits qu'on retrouve à faire partie de la nation, ensuite, ils sont précieux. Il y a encore des discriminations, il y a encore des gens qui réclament, là, encore, on le sait présentement, là, il reste de la discrimination. J'ai mon amie, ma consoeur, d'ailleurs, Wendat, Mélanie Savard, qui travaille fort aussi pour enlever les discriminations qui restent dans la loi sur les Indiens. Mais donc, ces droits-là sont importants, mais toutes les coupures que ça a pu amener, tout ne se rattrape pas. Tout ne se rattrape pas, mais lorsqu'on on prend conscience justement de ça, c'est là où je trouve que on parle beaucoup de retrouver des droits, mais moi, un message que j'aime beaucoup ramener, c'est qu'en fait, c'est plutôt une responsabilité qu'on retrouve. C'est la nation, c'est la communauté qui a perdu avec le temps des personnes. Et de pouvoir en refaire partie à nouveau quand ces femmes, comme ma mère, retrouvent le droit au statut, en vérité, ce que c'est une responsabilité. Je le vois beaucoup comme ça. Je me dis, à partir de là, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. La langue Wendat, tu mentionnais, c'est une langue qui est endormie, qui est en reconstruction par des personnes extraordinaires qui travaillent très, très, très fort. Mais on ne peut pas tout effacer. Puis moi, bon, même si j'ai tenté d'apprendre la langue et puis je connais quelques mots, mais force est de constater que là où j'en suis aussi dans ma vie, des fois, on arrive à un point où je ne pense pas que je vais jamais pouvoir parler de façon courante la langue Wendat. Et être porteuse de savoir à cet égard-là du tout. Ceci dit, il faut qu'on puisse se donner les moyens pour que les langues qui sont toujours vraiment parlées puissent continuer de l'être, pour que des langues comme la langue Wendat qui était endormie puissent à nouveau être enseignées auprès des jeunes, surtout là où c'est vraiment, vraiment déterminant. Et moi, c'est dans ce sens-là, en fait, que je vois un rôle que j'ai à jouer. Je me suis dit, dans toute communauté, en fait, on a la responsabilité d'amener le meilleur de nous-mêmes, les cadeaux que nous-mêmes, on a reçus de la vie, les forces qu'on a, comment on peut contribuer. Puis directement, c'est pas moi qui va pouvoir un jour enseigner la langue Wendat, ça c'est certain, ou une autre langue, ou être porteuse de savoir, de la culture de façon plus large. Mais par l'enseignement du droit et comme avocate, convaincue et convaincante, je l'espère, sur bien des sujets, là où je pense que je peux faire une grande contribution, bien modestement quand même, avec en lien avec les personnes qui revendiquent leurs droits, c'est de trouver des façons, justement, d'un point de vue juridique, de le supporter, ça, ce droit-là à l'autodétermination, ce droit-là à l'autonomie gouvernementale, ce droit de développer sa propre culture, sa propre langue, et tout ce qui va avec, parce qu'une langue, c'est une chose, mais ça va avec le territoire. C'est relié au fait de pouvoir avoir une gouvernance sur son territoire. C'est relié au fait de pouvoir s'occuper de ses enfants comme on veut s'occuper de ses enfants. On a déjà parlé beaucoup de protection de la jeunesse. C'est relié, c'est une vision de la vie, c'est relié à la manière dont on conçoit la justice, dont on pense qu'on devrait interagir avec les personnes, qu'on dit parfois délinquantes, mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment? Peut-être qu'on a plus besoin aussi de soins, on a besoin d'une approche holistique. Comment on peut changer ces systèmes-là normatifs, puis faire de l'espace, puis par le droit, pouvoir redonner ce pouvoir-là aux personnes, par le droit, par l'enseignement, comment on peut s'assurer que les prochaines générations de juristes, d'avocats, notaires puissent être des alliés, d'une part, ou pour les Premières Nations, comment on peut s'assurer le plus possible de les inclure et de faire en sorte aussi que les nations retrouvent un pouvoir de cette manière-là. Donc, voilà, le lien avec la langue. En fait, c'est le lien avec la culture, hein, c'est tout ça. C'est ça, je pense que c'est le fait d'être privé de quelque chose, mais de dire, OK, moi, je fais partie de cette communauté, comment je peux... Ça peut être quoi, moi, mon rôle? Puis je pense qu'il peut avoir des rôles vraiment complémentaires, en fait, qui sont tous nécessaires pour aller vers plus de protection et plus de possibilités de pouvoir parler des langues autochtones, comme la langue Wendat.
Merci beaucoup, Karine, pour ce témoignage. Hein. C'est toujours la première partie de l'émission où les personnes se dévoilent un peu plus. C'est toujours mon moment préféré de l'émission, d'ailleurs. Et peut-être pour les auditrices, les auditeurs qui connaissent de manière très précise les impacts de la loi sur les Indiens, quand tu disais que ta mère a perdu ses droits, est-ce que c'est parce que c'était en se mariant avec une personne allochtone?
Oui, effectivement. Moi, ma mère s'était mariée une personne allochtone avant 1985. Je suis née un petit peu avant 1985 aussi. J'ai presque dévoilé mon âge. Mais voilà. Donc, c'est revenu plus tard. Et il faut dire qu'il reste encore aussi des discriminations. Donc, on a éliminé cette règle-là. De la coupure, là, de la transmission du statut après 1985. Mais on sait qu'on l'a fait un petit peu à la pièce là, avec les années. Il est arrivé toutes sortes de... Il y a eu des jugements. D'abord, il a fallu qu'il y ait des recours. Quand même, ça, c'est pas rien, c'est lourd. Il a fallu que les gens contestent devant les tribunaux, démontrent que la loi était discriminatoire en faisant perdre les statuts comme ça aux femmes qui se mariaient avec une personne non inscrite, alors que c'était pas le cas pour les hommes. Hein. C'était seulement les femmes qui subissaient ça. À l'inverse, les hommes membres de la Première Nation qui mariaient une femme allochtone, la femme avait le statut, donc c'était l'inverse. Donc, c'est un processus quand même d'assimilation qui était assez clair. Donc, il y a eu des jugements avec les années et ça a pu mener à des changements législatifs quand même lents. Mais ça demeure. Et notamment, on sait là, qu'il y a des personnes, je parlais tout à l'heure là, de Mélanie Savard, qui est porte-parole d'un groupe aussi, puis plusieurs familles Wendat qui sont interpellées. Puis il y a des enfants en ce moment hein, qui font partie de la communauté, qui, eux, vont même à l'école, qui sont même exposés, eux, jeunes, à la culture, à la langue, qui ont des parents qui sont très, très impliqués, intégrés à la communauté. De fait, c'est des jeunes là, qui vivent le plus possible, comme il est possible de vivre hein, dans la nation Wendat. Et il y en a qui font encore l'objet là, d'exclusion en ce moment parce que vraiment, toujours, il y a cette coupure après la deuxième génération là, de la transmission du statut qui ne fait que reporter toujours à plus tard. Hein. On la repousse avec les années. Là. On a aboli 1985, puis après, il y a eu différents jugements. Mais on repousse toujours à plus tard le fait là, de devoir trouver une solution par rapport à ça, parce que si on n'enlève pas ces règles, en fait, ça amène toujours à une diminution là, du nombre de personnes dans les nations.
Donc, on parlait de l'apprentissage que tu essayes de faire en ce qui concerne la langue Wendat. Est-ce que tu verrais vraiment un obstacle majeur à l'apprentissage de la langue Wendat, outre le fait qu'il y ait peu de locuteurs, locutrices, au niveau peut-être de l'intérêt des générations, des jeunes générations à se réapproprier la langue? Est-ce que tu penses que pour les personnes Wendat, donc de la seule communauté Wendake, ça pourrait être quelque chose de réalisable un jour, d'avoir vraiment cette langue complètement parler ou tu penses qu'il y a encore des obstacles importants qui existent dans la société, on peut dire québécoise, qui pourraient meurtrir un petit peu cette transmission de la langue Wendat?
Déjà, je le mentionnais, puis on sait que c'est le cas pour n'importe quelle langue. Hein. Si on veut avoir un taux de succès plus élevé, la science nous le dit, c'est plus on est jeune, hein, plus ça fonctionne bien. Autant à la fois dans notre capacité humaine de l'apprendre que dans le fait qu'on n'a peut-être plus toujours le temps non plus rendu, puis on n'a peut-être plus toujours l'occasion à un âge plus avancé. Donc, c'est possible, mais évidemment, faut miser sur les jeunes, la jeunesse. Je mentionnais tout à l'heure les personnes là, qui ont encore de la difficulté à avoir certains statuts là, pour des enfants qui sont dans la communauté, ça, je sais que c'est une source de découragement pour certains enfants, certains parents, de savoir, de dire « moi, je suis dans la communauté, je veux apprendre, je veux être là », mais finalement, on me dit que finalement, je ne suis pas vraiment là, j'ai pas de statut. Ça peut même être très blessant, ça amène de l'exclusion. Faut pas minimiser... C'est un statut, bon, qui est colonial, là, dans le contexte de la loi sur les Indiens. Mais le fait d'exclure certaines personnes d'un statut, justement, ça crée un... Déjà là, ça crée un sentiment d'exclusion, de détachement. Ça peut blesser. Puis si les personnes se sentent blessées, justement, par rapport à leur identité, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient plus difficile. Pour les langues autochtones, en général, au Québec, on est dans un contexte qui est un petit peu difficile avec les dernières modifications qu'il y a eu à la Charte de la langue française, renforcement qu'il y a eu là, via le projet de loi 96, qui est d'ailleurs contesté hein, par des Premières Nations, puis notamment le Conseil en éducation des Premières Nations. Et bon, c'est particulier parce qu'on a renforcé des règles à la langue française là, de façon à s'écorcer sans vouloir accorder aucune exception aux langues autochtones. Même si ça a été demandé, hein, ça a été demandé par les nations, ça a été demandé. Puis en réalité, je pense pas que les Québécois se sentent menacés par les langues autochtones, là. Soyons bien honnêtes, là. Je pense pas que le français est menacé par des langues autochtones. Au contraire, les langues autochtones, c'est celles-là qui sont un petit peu plus fragilisées. Donc, ces règles-là, finalement, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont renforcé des obligations d'avoir suivi des cours là, exclusivement en français, des performances au niveau de la langue française pour, bon, notamment accéder à de l'éducation supérieure, aller à l'université. Et puis, comme Wendat, oui, on est plus à l'aise majoritairement avec la langue française qu'avec la langue anglaise, mais on sait qu'au niveau de la population Première Nation Inuit, majoritairement, les gens au Québec sont plus à l'aise avec la langue anglaise que la langue française. Donc, si on le regarde globalement aussi, pas seulement pour la langue Wendat, ça fait que pour toutes les autres nations, comme les Mohawks, par exemple, qui vont parler plus anglais que français, comme les Cris, comme les Inuits, le fait déjà d'imposer là, des renforcements de la langue française, et surtout en plus que c'est des communautés qui parlent leur langue, leur propre langue autochtone, de parler sa langue, de parler anglais, là, de nous faire demander d'être vraiment plus qu'excellent encore en français, ça crée des barrières systémiques qui sont très importantes. Et elles étaient déjà là en matière d'éducation et donc là, on en rajoute, ça vise en plus des nations où la langue, elle est vivante, la langue autochtone, sauf que ça peut placer des parents devant des choix impossibles et difficiles. Dire, par exemple, bien, on met l'accent, quand on est jeune, sur l'apprentissage de notre langue ancestrale, la langue autochtone, mais là, il y a aussi l'anglais, par exemple. Bien, OK, est-ce qu'on fait ça ou finalement, il va falloir mettre l'accent sur le français vraiment beaucoup plus tôt? Et peut-être là, moins mettre l'accent et moins mettre d'effort, peut-être, sur la langue autochtone. Donc, ça met un peu devant des choix impossibles. Et si on le fait, on se dit, bien, là, peut-être que mon enfant, il va avoir de la difficulté quand va venir le temps de passer les tests après le cégep, puis de pouvoir accéder à l'université. Donc, ça, c'est un obstacle additionnel, peut-être, qui ne vise pas que spécifiquement là, la situation de la nation Wendat, mais qui est problématique là, assez globalement, disons, pour la préservation des, et l'encouragement aussi là, des langues autochtones globalement au Québec.
On va parler d'ailleurs un peu plus en profondeur sur les dispositions législatives qui pourraient avoir un effet négatif sur la protection des langues autochtones d'un point de vue général. Petite pause musicale, justement, on va écouter donc une autrice compositrice que tu me disais que tu aimais aussi, que tu aimais beaucoup, qui s'appelle Eatsé. Et donc, je vais me tourner là vers notre spécialiste de musique, Véronique Audette. Dis-moi, Véronique, un petit peu à propos de Eatsé.
Eatsé, qui signifie « ma bonne amie » en langue Wendat. Eatsé est une jeune auteure, compositrice, interprète de la Première Nation Wendat de Wendake. Elle compose et elle chante à la fois en français, en anglais et un peu en Wendat. Elle a été révélation de l'année à Radio-Canada en 2025-2026. Et puis, elle a aussi été nommée dans la catégorie artiste autochtone de l'année à la disque dernièrement en 2025. Donc, c'est vraiment des belles reconnaissances là, qu'elle a eues. On lui souhaite de continuer comme ça. Elle a fait un premier EP qui s'appelait « My Good Friend » en 2021. Et puis... elle a aussi produit avec Nikam Owen son album Healer, qui a été lancé au début de 2025.
Et on va lancer justement la chanson Wendat Andy, qui veut dire « Je suis Wendat », c'est ça, hein?
Oui.
Donc, Wendat Andy de Eatsé, de son album Healer, qui date de 2025. On va la chanter, on va la diffuser maintenant.
Today I'm staying strong. Today
voilà, de retour, toujours sur le plateau de CKIA 88.3 FM, en compagnie de la professeure Karine Miller, Wendat, de la communauté de Wendake. Et donc là, on parlait juste avant la pause musicale des dispositions législatives, en tout cas qui sont à l'état de projet de loi, qui pourraient avoir des effets dévastateurs sur les langues autochtones. Tu nous as parlé justement de la modification de la charte de la langue française qui est problématique pour la valorisation, la protection des langues autochtones d'un point de vue général. Et peut-être aussi, on pourrait parler de d'autres types de dispositions qui ont des effets dévastateurs. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup du projet de loi 1, donc relatif à la Constitution du Québec. Hier, en fait, a eu lieu une conférence de presse. Première langue en faisait partie, notamment, ou qui a rejoint beaucoup de journalistes de divers horizons, pour parler d'une initiative qui est établie par la Commission internationale des juristes du Canada et la section québécoise dont je parle. Tu as fait partie de cette initiative, Karine, et peut-être tu pourrais un peu nous parler de qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ce projet de loi pourrait avoir comme effet sur la protection des langues autochtones.
Oui, ben d'abord, c'est ça, il y a tellement de choses qui se passent présentement sur la scène politique, puis aussi du point de vue Première Nation. Et bon, pour les personnes qui peut-être sont moins au fait du détail, alors ce projet de loi 1, où le gouvernement du Québec veut vraiment imposer une nouvelle constitution québécoise, il le fait sans consulter personne de façon publique avant. Alors ça, c'est très, très... Ça, c'est vraiment contraire à des principes là, de base, que ce soit en droit canadien, en droit international, de devoir d'arriver et d'imposer une constitution et de dire, bon, on va en discuter peut-être un peu après. Et notamment du point de vue des Premières Nations, ben, il n'y a aucune consultation publique avant, il n'y a eu aucune co-construction qui s'est faite. Et déjà, de faire ça en 2025, ça, c'est pas rien. Hein. C'est vraiment imposer une constitution qui minimise vraiment, en fait, là, les droits des Premières Nations, on va en reparler, ça relève très simplement de l'approche coloniale. Et je le dis, je souhaite le dire, parce que je sais que tout le monde n'a peut-être pas la liberté de le dire. Tout le monde n'a peut-être pas la liberté de le dire, effectivement, parce que ce gouvernement majoritaire, quand même, a du pouvoir, exerce du pouvoir, et s'impose, hein, il impose cette constitution. Donc, c'est un projet qui, quand on le regarde en détail, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais on veut vraiment revoir en profondeur plusieurs éléments là, qui sont reliés au vivre ensemble. À la façon dont on... Quels sont les liens, les droits à la fois, bon, de la nation québécoise et peut-être en lien avec les droits des individus, des personnes, des droits humains, des peuples autochtones. Ben déjà, les peuples autochtones, dans ce projet de constitution imposé, il n'y a absolument aucun article de loi. Aucun. Aucun qui ne traite de droits des Premières Nations. Pour essayer un petit peu de je sais pas moi, d'amenuiser ça et de dire qu'on a fait quelque chose, on en a fait une petite mention dans le préambule. On a dit, ah oui, il existe au Québec des nations, donc au Québec, pour ensuite parler, bon, du fait que le Québec là, impose son intégrité territoriale, là, son droit à l'intégrité territoriale. Donc, on le positionne en plus. Hein. On en parle dans le préambule, mais en plus, c'est pour le positionner. C'est au Québec, plutôt que de dire le Québec est sur des territoires... ancestraux et en majorité non cédés de Premières Nations. Donc, on dit, si au Québec, il y a des nations, puis ben là, on ne peut pas nier que, bon, il y a des droits qui ont peut-être été reconnus, là aussi, hein, donc, par la Constitution fédérale. Donc, on dit, ah oui, il y a peut-être certains droits, mais bon, on n'en dit pas plus. Donc, déjà, on positionne les nations comme étant devant s'intégrer dans le Québec. Et chose assez significative et grave aussi, on ne nomme pas les nations comme étant des peuples. Et ça, ça a une portée. Bon, déjà, ça a une portée que les gens reconnaîtront au niveau là, du respect, de la reconnaissance qui n'est pas là, et ça, c'est important. Mais c'est important de savoir aussi que ça a une importance juridique, ça. D'avoir une constitution où on ne reconnaîtrait qu'un seul peuple, le peuple québécois, et de dire que toutes les autres nations, il y a une politique d'intégration, c'est ça qu'on met en place, hein, d'intégration de toutes les personnes et de toutes les nations, notamment les Premières Nations, à l'intérieur de ce seul peuple, ça, ça a une portée juridique qui est grave. Les peuples autochtones, ont depuis longtemps, dans le droit canadien, des droits qui sont reconnus. Droits canadiens, mais droits reconnus par les tribunaux québécois aussi, à titre de peuple. Et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ben ça le dit dès le titre, hein, c'est des droits qu'on reconnaît à des peuples. Des peuples, ça a une souveraineté qui est préexistante aussi, nous ont dit les tribunaux. C'est pas des nations minoritaires à l'intérieur du peuple québécois. Certains commentateurs disent ça, mais c'est complètement faux. Les peuples autochtones ont une souveraineté qui est préexistante. Et celle-là doit être réconcilier, bon, avec la souveraineté qui est imposée par la couronne, c'est une chose. Être un peuple, ça amène aussi à avoir des droits, donc, préexistants, des droits ancestraux, des droits reconnus internationalement aussi. Donc, c'est une portée qui est très, très, très importante pour le respect, mais aussi d'un point de vue juridique. Et un peuple, bien, notamment, bon, oui, des droits territoriaux, c'est tout relié, hein, des droits territoriaux, des droits de gouvernance, d'autodétermination, mais des droits culturels aussi, parce que c'est ça le but de l'émission, de parler de droits culturels, même si tout ça est relié avec les droits territoriaux, quand même, le droit au territoire, c'est important. Puis bon, quand même, peut-être en dire un petit mot quand même sur le territoire, parce que langue et territoire, c'est relié, en fait, c'est relié, la langue est reliée au territoire, donc si on parle pas si on n'a pas de droit sur son territoire, on n'a pas d'accès au territoire, on n'a pas comment la langue, la culture peut se développer, tout ça, c'est vraiment très, très relié. Et donc, ce projet de loi-là, et ça, même pas dans le préambule, il ne parle de droits territoriaux des Premières Nations, mais plutôt un peu partout, et il y a plusieurs articles où il va plutôt parler de l'intégrité du territoire du Québec. Il y en a tout un chapitre, en fait, et de la souveraineté du Québec qui l'impose. Et en contrepartie, absolument rien. Donc, sur la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Donc, non seulement on est comme en train de nier, de faire à semblant que les droits qui sont déjà reconnus n'existent pas, puis c'est comme si on voulait aller encore plus loin pour dire, OK, ben on fait comme si c'était... il n'y en avait pas du tout, là. Et on voulait même le réduire, hein, réduire même le fait donc, qu'il s'agisse de droits qui appartiennent vraiment à des peuples. Alors, donc ça, c'est une chose, et c'est assez problématique d'un point de vue des droits territoriaux. Et au niveau des droits culturels, bien, c'est un peu la même chose. Il y a une disposition spécifique dans ce projet de loi-là qui dit qu'il faudrait mettre en place une politique d'intégration. L'intégration, là, c'est fort d'un point de vue juridique. On n'est pas en train de parler de bien vivre ensemble, de coexistence, de respect mutuel, de rapport de nation à nation. On parle d'intégration. C'est ça le mot qui est choisi. Et ce que ça signifie, cette politique d'intégration, c'est que toutes les personnes et les groupes, incluant les nations autochtones, devront être intégrées à la nation québécoise. C'est du jamais vu, en fait, qu'on ait ce type de politique qui aille aussi loin, qu'on veut mettre donc dans le projet de loi. Donc, on parle d'une seule langue officielle, le français. Ça, on le savait déjà, on le mentionnait tout à l'heure, ça pose problème, là, que déjà on aille un petit peu trop loin puis qu'on ne reconnaisse pas l'espace aux langues autochtones. Mais là, c'est plus que ça. Non seulement les langues autochtones ne seront pas des langues officielles, mais c'est en plus, le français devient la seule langue d'intégration. Donc, seule langue officielle, mais seule langue d'intégration. Donc, on va prendre des mesures, des politiques pour aller encore plus loin, pour forcer encore plus l'intégration. Et c'est la même chose avec la culture. C'est très relié, la langue faisant partie de la culture. On dit que la culture québécoise, la culture de la nation québécoise est la culture d'intégration. Donc ça, ça va très loin. Et on le sait concrètement ce que ça donne. Hein? Déjà, avec la Charte de la langue française, les renforcements, ça rend difficile même d'avoir des communications dans d'autres langues. Ça rend difficile de même pouvoir diffuser dans d'autres langues. Ça a rendu difficile de pouvoir même diffuser de l'art, diffuser de la chanson dans d'autres langues que le français. Ça fait en sorte que même dans le commerce, on ne peut pas s'afficher uniquement dans notre langue. Ça, c'est ce qui est déjà en place sans politique d'intégration. Donc, imaginez avec une politique d'intégration où ce que ça peut nous mener, mais très clairement, d'un point de vue juridique, parce que c'est ça mon expertise, mais d'un point de vue juridique, ça viole hein, les droits en matière culturelle, d'autodétermination aussi. Et il y a des dispositions spécifiques aussi dans la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, parce qu'on sait, on sait à quel point hein, il y a eu justement de l'assimilation qui a été faite relativement aux peuples autochtones, que ces politiques d'intégration qui sont assimilationnistes, en réalité, sont contraires aux droits fondamentaux des droits des peuples autochtones. Et c'est important donc de voir où ça va pour dénoncer, pour ne pas que ce projet de loi-là soit adopté, en fait.
On souhaite vraiment, là, finalement, que ce projet de loi 1, comme tu l'exprimais, qui viole, en fait, les droits fondamentaux des peuples autochtones, notamment, car aussi ceux des minorités aussi, ils sont violés par ce projet de loi. On souhaite vraiment, effectivement, qu'il puisse ne pas être adopté, là. Je pense que toute l'équipe de Première Langue là, soutient cette initiative activement.
Oui, puis c'est ça, juste un petit mot aussi sur la procédure, en fait, là, qu'on prend en ce moment, parce que c'est ça tu disais, Cécilia, là. Le projet de loi n'étant pas adopté, c'est pas possible de saisir les tribunaux au Québec, au Canada déjà, pour pouvoir contester, mais une avenue qui était disponible, c'est une avenue préventive qui consiste là, à envoyer une communication par procédure spéciale de manière urgente à différents rapporteurs des Nations Unies qui se spécialisent donc dans les différentes questions touchées, que ce soit des droits culturels, que ce soit les droits des peuples autochtones, par exemple, des minorités, etc. Et pour leur dire qu'il y a un projet de loi qui est là et que de façon imminente, s'il était adopté, il pourrait avoir des violations graves, pour que tout de suite, il puisse y avoir un examen de la question qui puisse être entamé. Donc ça, c'est une procédure qui existe en droit international, alors que ça n'existe pas, là, devant les tribunaux au Québec et au Canada. Et c'est ce qu'on espère, en fait, hein, au-delà de ce projet de loi-là, même qu'il y ait des observations pertinentes qui soient données pour nous rappeler le cadre selon lequel on est censé adopter des lois et comme une constitution et qu'on doit respecter les droits humains, qu'on doit respecter les droits des peuples autochtones. Donc voilà, donc c'est la Commission internationale de juristes qui a déposé la procédure. On a beaucoup d'appui, Amnesty International, la Ligue des droits et libertés. Du point de vue autochtone, aussi la International Indian Treaty Council, qui en fait s'occupe même un peu partout dans les Amériques, donc aux États-Unis, même en Amérique du Sud, de s'assurer qu'il y ait toujours une coopération pour protéger les droits ancestraux, les droits issus de traités. On a Michel Audette qui appuie l'initiative, aussi le chef Jean-Charles Pietachaud de Kwanichit, communauté Innu, le chef Sibi Flamand aussi de Manouane, communauté Atikamekw. On avait, il y avait même aussi qui était avec nous hier, la professeure d'Innu, Yvette Mullen, qui aussi est très, très préoccupée. Étant elle-même gardienne de la langue, est aussi très, très préoccupée par cette politique-là d'intégration qui est enchâssée dans le projet de loi 1.
Et donc, de ce que je comprends, cette procédure a été soumise hier aux rapporteurs spéciaux. Et là, on s'attend, c'est une procédure spéciale, hein, de ce que je comprends, devant les mécanismes de l'ONU, devant les rapporteurs spéciaux. Donc, plusieurs ont été visés. C'est ça. On a, de ce que j'ai entendu hier, c'était la rapporteuse, bien sûr, spéciale des droits culturels, Alexandra Zentaki, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, bien sûr, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction, celui aussi ou celle, relative aux droits à l'éducation, aux droits de l'homme des migrants, au racisme, discrimination sociale, xénophobie et de l'intolérance, également aussi rapporteur spécial de l'indépendance des juges, aussi celui sur les mesures coercitives unilatérales sur l'exercice des droits culturels, des droits de l'homme, pardon, pour en finir avec le rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice et de la réparation et des garanties de non-répétition. Donc là, je pense qu'on a quand même beaucoup, on a 10 rapporteurs, rapporteuses spéciales qui vont analyser, donc, si je résume un peu, le projet de loi afin de notifier et identifier des potentielles violations à la lumière des normes et standards du droit international. Donc là, on s'attend à une réponse assez rapide de ces rapporteuses, rapporteurs, hein?
Oui, en fait, c'est toujours difficile à dire parce que, bon, arrive la période des fêtes aussi, en fait, dans les prochains mois, on s'attend à un retour. Et comme exemple, hein, des fois, d'indications que ça peut nous donner pour dire, ben finalement, à quoi ça mène, ça va faire en sorte que le gouvernement du Québec peut avoir à rendre des comptes, en fait, sur son... sur sa politique ici, sur son projet de loi. Ça peut ajouter même donc à des recours internes aussi. Donc, on sait qu'en 2023, le rapporteur sur les droits des peuples autochtones déjà voyait, hein, avec ce qui se passait là, du renforcement de la Charte de la langue française, qu'il y avait des possibilités de violation des droits linguistiques et culturels des peuples autochtones. Bien, il l'a mentionné. Et donc ça, c'est évidemment, d'un point de vue international, bien, le Québec a à rendre des comptes de ça. Mais en plus, ça vient alimenter présentement les contestations là, qui existent à l'interne, donc que mènent des Premières Nations relativement au projet de loi 96. Donc ça, c'est quand même précieux en ce sens-là. Puis ça peut nous donner aussi des indications objectives sur, par exemple, la politique d'intégration. Comme en 2007, par exemple, Doudou Dienne, qui est rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, xénophobie et de l'intolérance qui est associée, parlait de cette rhétorique-là qui est vraiment celle en ce moment du gouvernement du Québec actuel, qui nous dit ben, on a le droit au Québec de défendre les droits collectifs de la nation québécoise. Oui, mais à un certain point. On ne peut pas pour ça intégrer, violer, réduire, nier ceux des autres pour ce faire. Et ce que nous disait ce rapporteur ici, c'est que justement, cette rhétorique, je cite, de défense de l'identité nationale et des valeurs nationales, c'est très exactement ça qu'on a dans le projet de loi 1, hein, puis c'est là depuis qu'on veut imposer les valeurs donc du Québec spécifique et tout. Le rapporteur nous dit ça en réalité. C'est très exactement, là, on observe sur la scène internationale que c'est la manière dont des gouvernements s'y prennent pour finalement amener à imposer des politiques qui sont racistes, préoccupée, je cite, je pèse mes mots, qui sont, en fait, c'est ceux du rapporteur, ce ne sont pas mes mots, que ça amène des politiques racistes, xénophobes, et qui s'articulent donc de manière révélatrice autour de cette rhétorique de la défense de l'identité nationale et des valeurs nationales. Alors, donc déjà, ce type d'examen externe et objectif, indépendant, à la lumière de normes internationales, à la lumière aussi de glissements qui ont pu se passer dans d'autres États, où des droits des groupes, des peuples autochtones, des individus ont pu perdre finalement du terrain, de la force en matière de protection. Ça peut donc, ces observations, nous amener à avoir une analyse encore plus éclairée aussi sur ce qui se passe en ce moment.
C'est d'ailleurs bon, le projet de loi déposé par le ministre Simon Jolin Barrette. C'est à la suite aussi quand même de plusieurs réalités de la société québécoise et aussi au sein des fonctions de la fonction publique québécoise où les droits des premiers peuples, les droits des peuples autochtones au Québec sont pas respectés si on s'attarde justement à la commission Vien qui est relative aux fonctions publiques et à la fonction publique québécoise qui parle de racisme systémique une expression qui est pas une expression qui est plutôt une réalité qui est pas reconnue par le gouvernement québécois. Ça m'amène rapidement aussi, parce que je sais que c'est une question que toi, tu travailles beaucoup, la sécurisation culturelle, dans le milieu de la santé en particulier, puis plusieurs recommandations avaient lieu à ce moment-là, dont d'ailleurs reconnaître, respecter le principe de Joyce. Ces recommandations, ces principes, tu as été très active sur, et tu es toujours très active sur ces questions-là. Ça implique notamment de laisser une grande place aussi à la langue, tu sais, aux langues et dans le milieu de la santé. Peut-être, j'aimerais avoir peut-être quelques mots sur la sécurisation culturelle, vu que c'est vrai, la langue joue un gros rôle pour accorder aux personnes une sécurité dans un milieu. Que ça soit dans le milieu de la santé, que ça soit dans le milieu de l'éducation, pouvoir parler dans sa propre langue, ça offre une sorte de sécurité. Ceci, aujourd'hui au Québec, à moins que je me trompe, ce ne sont pas des mesures qui sont effectivement mises en place. Est-ce que je me trompe ou qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que ça aille plus loin là?
Tu as effectivement raison que c'est beaucoup de personnes vont nous dire que le fait de pouvoir s'exprimer dans leur langue, donc des personnes qui vont parler la langue Innu, parler la langue Atikamekw, parler l'Inuktitut sur une base plus régulière, et que c'est réellement leur première langue avec laquelle ils sont plus à l'aise. Tu sais, quand on est malade, là, c'est dans notre langue, à nous, qu'on est le plus à l'aise de s'exprimer. Et c'est au cœur, en fait, de demandes qui sont faites d'avoir accès plus à des soins dans les langues. Il y a des initiatives en ce moment pour arriver à avoir certains navigateurs, par exemple, dans le système de santé qui vont pouvoir peut-être, qui peuvent, tu sais, parfois aussi, par exemple, bon, si c'est une personne Atikamekw, parler aussi Atikamekw, parler aussi Innu, une personne Innu, mais c'est encore très, très rare et ça ne fait pas partie d'une idée de politique organisée là, dans laquelle on irait vraiment de l'avant pour offrir ces services-là. Tu le mentionnais, le gouvernement du Québec, de manière très, très surprenante, là, nie les faits scientifiques et nie tous les conclusions de commission à l'effet qu'il existe la discrimination systémique. Refuse aussi de reconnaître expressément le principe de Joyce, ce qui n'est pas qu'une question de rhétorique, c'est très, très important pour reconnaître par respect aussi, hein, reconnaître aussi les causes qui ont mené à des situations très graves. Et donc, la langue, déjà, c'est une question de respect, une question de considération, c'est une question d'être compris, mais c'est une question de bien comprendre aussi, parce qu'on sait qu'en plus, puis il y a d'autres personnes chercheuses qui ont mis beaucoup en lumière du non-respect, de violation du consentement en matière de santé, services sociaux pour les Premières Nations. Ça existe encore aujourd'hui, qu'on parle des stérilisations forcées, qu'on parle également du fait que c'est pas rare encore que les personnes sont pas trop certaines de savoir à quoi elles consentent. Et tout ça, donc, c'est par la langue, évidemment, qu'on peut arriver à mieux comprendre, par la langue, mais par l'approche plus globale culturelle aussi, au-delà même de la langue. Arriver à mettre en place un contexte sécuritaire culturellement qui permet d'être compris, de bien comprendre aussi. Et ça va jusqu'à avoir un impact important au niveau du consentement. Et souvent, ce qu'on s'est aperçu, notamment avec le bureau du principe de Joyce, c'est que les gens ne connaissent pas toujours très bien leurs droits. Leur droit d'être accompagné, leur droit de demander des services. On est tellement habitués, en fait, les personnes de se faire dire non dans un contexte colonial que les personnes n'osent pas. Quand on ne va pas bien, en plus, ou c'est un membre de notre famille qui ne va pas bien, c'est peut-être moins facile aussi de revendiquer nos droits. Ça devient encore plus important dans ce contexte-là, d'en parler, qu'il puisse y avoir des ressources, des outils pour que les personnes, à l'éducation au droit, et que les personnes qui puissent, en fait, défendre ces droits et dénoncer la discrimination systémique qui est toujours présente, puissent le faire.
On arrive d'ailleurs très proche de la fin de notre émission. Je regarde, ça passe toujours très, très vite. Et je me disais, si, en guise de mot de la fin, tu avais envie de laisser passer un message aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent, que ce soit des personnes, des jeunes générations qui ne sont pas des personnes locutrices, ou que ce sont des personnes locutrices qui ont envie de parler leur langue, pas leur langue, ou juste des personnes qui ont envie d'avoir foi, peut-être. Aujourd'hui, c'est des temps en ce moment, les temps sont difficiles et qui veulent avoir un peu peut-être foi dans le respect de leurs droits. Je te laisse le micro pour, en guise de mot de la fin, pour t'exprimer sur ce que tu as envie de. Ce qui te plairait, en fait.
Bien, en fait, ce que j'aimerais dire, suivant mon propre positionnement aussi, c'est quand on parle de la langue, de revitalisation, de protection de la langue, de la culture, on pense évidemment toujours en premier aux personnes porteuses de savoir, auxquelles on demande beaucoup, qui sont extraordinaires. Et on se dit, ben aussi, ben c'est notre responsabilité de parler la langue. Bon, parfois, bon, moi, justement, je suis pas locutrice de la langue Wendat, mais... Tout ça, c'est important, mais c'est pas la seule façon de contribuer. On peut tous avoir un rôle à jouer. Et je pense que je voudrais inviter les gens à se poser la question de prendre la responsabilité. Quel est le meilleur d'eux-mêmes qu'ils peuvent donner à ça aussi? Si on y croit à cette importance, en fait, de garder vivantes les langues, mais les cultures autochtones, de façon générale, des Premières Nations, comment est-ce qu'on peut contribuer de différentes manières? Moi, c'est par la défense de droits, par le fait de parfois peut-être dire ce que d'autres sont dans une situation qu'ils ne peuvent pas dire en raison des dynamiques de pouvoir. Peut-être que vous êtes plutôt une personne qui intervenait autrement dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, des services sociaux. Comment vous pouvez agir pour permettre parfois aux personnes peut-être d'être plus... de pouvoir exister, d'avoir un espace aussi de respect, de considération plus grand, eu égard à la langue, à la culture. Comment on peut, de différentes façons, tous jouer un rôle qui va dans cette direction-là. Et je pense que ce sont tous des rôles, des responsabilités à prendre qui sont complémentaires, en fait. Tiaweng.
Tiaweng, c'est comme ça qu'on le dit, hein? Tiaweng, Karine, pour ce mot. Je rappelle qu'on te remercie vraiment vivement d'avoir pris ce temps. Tu es très, très, très occupée en ce moment, surtout toi en tant que personne très engagée aussi pour la défense des droits. Donc, merci d'avoir pris ce temps avec nous. On le rappelle, on était en présence de Karine Miller, qui est Wendat et professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. On n'a pas précisé d'ailleurs, plutôt droit constitutionnel, liberté fondamentale et droit des premiers peuples. Alors, on parlait tout à l'heure d'ailleurs de son rôle de transmetteuse et pour inculquer aux générations futures comment voir ces traditions juridiques autochtones, parce que c'est ça, à travers les langues, à travers le savoir, il y a aussi des visions et des perspectives, et je pense que tu le fais admirablement bien en diffusant aux étudiantes et étudiantes ce savoir en tant que personne Wendat. Il me semble, si je ne me trompe pas, que tu es la seule professeure autochtone dans la Faculté de droit de l'Université de Montréal, hein?
En fait, c'est... Dans le milieu juridique, en général, hein, il y a très, très peu de personnes qui sont membres des Premières Nations. On a Cathy Bellefleur également, Inou, en droit des biens, qui est une collègue extraordinaire, qui n'est pas dans notre faculté, mais c'est bien au-delà des facultés. Il y a très peu de personnes. On sait que historiquement, en fait, le droit était même interdit aux personnes qui étaient membres des Premières Nations parce que ça devenait, on peut même perdre le statut. Donc, il y en a très peu. Moi, je me vois comme une personne qui peut aider peut-être à ouvrir des portes, à favoriser qu'il y en ait plus, qu'il y ait plus d'étudiants Premières Nations, de dire que ça peut être possible.
Et oui, d'ailleurs, je vous rappelle qu'on a eu une émission avec Cathy Bellefleur, d'ailleurs, dans le cadre de Première Langue, une sublime professeure en droit des biens à Faculté de droit de l'Université Laval, Cathy Bellefleur. Vous pouvez la réécouter en format balado sur le site Première Langue. Donc, c'est avec cela, justement, que l'on clôture aujourd'hui cette émission de Première Langue en compagnie de Karine Miller. Donc, on vous souhaite une très, très belle soirée et je vais finir en musique et on va écouter Honey and oui, grand chef Gros Louis, qui était un grand chef Wendat. Et c'est un hommage que nous fait en fait Eatsé, encore Eatsé, à son honneur. Et on vous souhaite une très bonne soirée en vous retrouvant dans deux semaines sur les ondes CKIA 88.3 FM pour une prochaine émission sur les langues autochtones. Alors, bye bye!
Bye!